que bon, je le fais pas pour moi, mais quand je sais que d'autres vont, après, recevoir la parole de Dieu dans des endroits où ils n'ont peut-être personne, eh bien, il faut que je m'incline et que je le fasse. Job, chapitre 7. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire, d'un ouvrier. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Voilà, pas besoin d'aller chez les psychiatres, les psychologues pour apprendre des choses, hein. Bon, quand on est dans le ministère pastoral et qu'on rencontre beaucoup de gens, ben c'est ça hein, qu'on rencontre souvent. Mon corps se couvre de verre d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides qu'un navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera, je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend aux séjournées morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Voilà la photo de la France et de l'Europe. État spirituel de l'Europe, des incrédules. Hein? C'est ça, hein? Amertume. Dès que vous rencontrez quelqu'un qui est dans l'amertume, c'est révélateur, il ne se repose pas sur le Dieu vivant. Paf. Hein? Naturellement, il faut encore écouter pour voir par où on pourrait attraper la conversation pour l'amener à Dieu. Ça s'apprend à la longue quand on veut amener les gens au Seigneur. Mais ce qu'il y a, regardez la catastrophe. Ça, c'est le résultat du péché d'Adam et Ève. Hein? Suis-je une mère ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? En plus, voilà, c'est que la personne s'en prend à Dieu. Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effrayes par des songes et que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ces eaux. Je les méprise, je ne vivrai pas toujours. Vous avez vu ça? La hargne? Ben, ça, c'est des choses que combien de fois j'ai entendues. Et il y en a qui ne le disent pas, mais ils le pensent. Voilà, ça c'est la situation de l'homme perdu, la situation de l'homme amer, hein. C'est pas marrant. Chapitre 10. Au début, quand je servais le Seigneur, j'étais fort touché, et on peut être ébranlé à force d'entendre ça. Mais si on se repose sur le Seigneur, on voit une chose. Si vous êtes dans le Seigneur, pourquoi vous laissez ébranler par quelqu'un qui est sans le Seigneur? Donc finalement, on se fortifie dans le Seigneur, dans la parole, dans la prière, et on prend en considération la personne, mais sans se laisser atteindre. Le chrétien, parfois, a tellement de sensibilité. Hein. Je vois, ça dépend, par exemple, l'image même que j'ai, c'est ma femme, elle est extrêmement sensible. Eh bien, tout la touche. Alors, si elle venait à toutes les visites avec moi, elle souffrirait énormément. Donc je dis, écoute, ça va, j'y vais, et puis prie pour moi. Mais j'ai vu une fois en psychiatrie, j'avais pris 3-4 chrétiens pour leur montrer un peu ce que c'était que les malades psychiatriques et d'aller les visiter. Ils sont sortis de l'hôpital en pleurant, en me disant « Jeannot, on ne veut plus y aller, c'est pas possible, c'est pas pour nous. » Vous savez, ça m'est arrivé dans les tout débuts de ma vie de pleurer, oui. Pour un homme cancéreux, 58 ans, comme un squelette, ça puait plein la chambre, il était tout seul, on n'a pas pu mettre quelqu'un. Et les infirmiers et les infirmières ne l'aimaient pas, il avait un sale caractère, il puait, il était laid. Et donc moi, c'était pendant mon service militaire, j'étais infirmier, et donc je dis, Seigneur, cet homme a besoin d'amour et de toi. Alors, avant d'y aller, j'allais dans le plaquet, le petit placard, le KGB, qu'on appelle ça en Belgique, où il y a les torchons raclette, et j'allais me mettre à genoux, je fermais la porte, et je priais. Et quand j'allais le voir, ça allait. Il m'est arrivé de sortir en pleurant, ça c'est vrai, tellement, ça, hein, à moins que d'être une brute, hein, épaisse, mais bon. Alors, parfois je retournais dans le KGB pour me mettre à genoux. En plus, il s'appelait Théophile, ami de Dieu. Mais vous savez, à force de patience, de prier et d'y aller, il n'était plus le même après, hein? Et les docteurs et les infirmières qui étaient mes chefs me demandaient, mais comment ça se fait qu'il ne meurt pas? Ça fait un an que j'avais pensé qu'il mourrait. Mais comment ça se fait qu'il ne meurt pas? Ben parce qu'il n'était pas prêt pour rencontrer le Seigneur, et que moi j'étais sur son chemin, il fallait qu'il se prépare. Simplement, quand vous voyez quelqu'un qui ne meurt pas, mais c'est pas possible, ben on s'est trompé, la fois prochaine on ne dira plus qu'il va mourir. Mais c'est qu'il n'est pas prêt, prier pour lui, essayer de faire quelque chose, hein. C'est qu'il n'est pas prêt pour rencontrer le Seigneur. Et si Dieu a décidé qu'il n'aille pas avec Satan, qui va aller lui, hein? Ah, il ne faut pas se démettre, hein. C'est la lâcheté, c'est grave, hein, dans l'Apocalypse. Dehors les lâches. Bon, chapitre 10, la Job. Mon âme est dégoûtée de la vie, je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Ben ça, c'est du classique. Nous habitons à la frontière franco-belge, hein, nous, et luxembourgeoise. Nous parlons le même français, et tout que les Français, à part 70, nous c'est 70, 90, c'est 90, mais enfin, pratiquement, ça c'est des bêtises. C'est... À tout à l'heure en France, chez nous, à tantôt, hein, vous voyez? Bon, c'est des bêtises, tout ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'au début, quand je commençais l'église, et que j'évangélisais, j'amenais des Français à l'église, où on fait une étude biblique, souvent ils se plaignaient, amertume. Et puis souvent, CR, chrétien républicain, donc on dit n'importe quoi, on se lâche, tout. Et les Belges, non. Un peu style du Nord, on est cadré, et on se tient. Et ça ne sert à rien, quoi. En plus, on perd du temps, on casse les pieds aux autres. Alors, pour mettre ces deux races ensemble, qui parlent la même langue, et qui n'y a qu'une frontière quasiment fictive maintenant, mais la barrière culturelle, elle est là, hein. Eh bien, il faut vraiment le Saint-Esprit. J'ai dû souvent dire, il n'y a pas de CR, chrétien républicain. Il n'y a que des chrétiens. Avec la paix de Christ, ma parole, pas avec le poison du monde. Bon, donc il faut apprendre à ne plus écouter, à ne plus écouter la culture qu'on a, à déconnecter avec tout ça, comme Abraham, hein, qui a quitté Ur en Chaldée, il a tout déconnecté, hein. On tire tous les fils, hein. Alors, je vous dis que c'est quand même un gros problème, hein, dans la société française. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Il se sent attaqué par Dieu. Ça, c'est aussi quelque chose, hein, ici, culturel. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de ta main, de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu deux yeux de chair? Vois-tu comment on voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années? Vous voyez ça? La projection de notre fiel sur Dieu. On le voit mauvais alors que c'est tout le contraire. Est-ce que c'est possible? Ben oui. Vous avez des parents parfois formidables qui ont élevé des gosses, et puis après arriver à un certain âge, les gosses ne veulent plus voir les parents et ils ne savent pas les sentir. Alors, ça se passe sur Terre, entre les humains, alors, entre Dieu et les hommes, hein, ok? Et regardez, le reproche va aller plus loin. Hein? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, verset 5, et tes années comme ces années, pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché. Donc, ils sont coupables. Oula, mais n'aime pas ça, hein. T'occupes pas de mon péché, c'est mon affaire à moi. J'ai eu un jour, il y a des gens un peu partout qui viennent chez nous, une jeune parisienne, elle veut me voir à part, de sa mère et de sa sœur, et puis je l'écoute, et puis je dis, tu as un petit copain? Oui. Et quoi? Tu vis déjà avec lui? Oui. J'ai dit, et tu te dis chrétienne? Normalement, tu dois pas dormir avec lui. Il faut passer par le mariage. Et il faut faire une alliance. Le mariage, c'est pas qu'une formalité. C'est une alliance devant Dieu. C'est mon affaire privée. Ma vie privée ne vous regarde pas. Je lui réponds, il n'y a pas d'affaire privée devant Dieu. Toutes les affaires concernent Dieu. Si tu es chrétienne. Elle n'est jamais plus venue me voir, elle ne se dit plus chrétienne, et elle s'est fait juive libérale. Elle a adopté le judaïsme libéral, hein. À mon avis, judaïsme orthodoxe aurait été un peu trop pour la série. Alors, on cherche des couvertures pour garder son péché. Ça, une couverture pour le laisser en dessous. Ça, c'est l'être humain. Sachant bien que je ne suis pas coupable, que nul ne peut me délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, tu me détruirais ? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile, voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière ? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait, ne m'as-tu pas caillé comme du fromage ? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs, tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins sous ta gorge. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur, voici je sais ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes. Tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, donc la main, tu me poursuis comme un lion, tu me frappes encore par des prodiges. Vous vous rendez compte que cette personne-là a conscience de l'existence de Dieu, conscience qu'elle est pécheresse, elle fait... Vous vous rendez compte? C'est pas ça qu'on voit couramment? En tout cas, dans tas d'émissions, dans tas d'attitudes, dans cette culture française détraquée. Mais elle était détraquée là, à l'époque d'Abraham. C'est humain, c'est pas français. Voilà, c'est pas un privilège des Français. Alors, le péché est un don fait à tous les hommes par le diable. Ils l'ont pris, et bien ils l'ont bien. Ils ont voulu l'orgueil, l'insolence envers Dieu, et vous en avez l'expression là. Mais l'insolence, le péché, l'arrogance envers Dieu amène le désordre, le chaos, l'amertume, et encore autre chose. On va voir. Chapitre 14. De Job. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Vive l'espérance, hein. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre, et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Ah oui, franchement, Dieu le dérange, hein. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment, d'un être souillé, sortira-t-il un homme pur? Oula! Question géniale. Ça, c'est bien ça. Comment, d'un être souillé, sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Ben oui, par soi-même. Par soi-même. Vous voyez qu'on approche, on approche d'une théologie où l'homme est incapable de sortir de sa souillure. Et ça, c'est clair. Job, il faut méditer des fois et des fois Job. Et pas se laisser impressionner par le baratin des trois faux sages, là. Il faut aller chercher vraiment les photos des hommes là-dedans. Hein? Et puis, la marque de Dieu aussi. Alors, si ces jours sont fixés, verset 5, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il pourrait franchir, détourne de lui les regards, donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Si tu es Dieu, de toute façon tu vas nous juger. Tu ne nous aimes pas, ben laisse-nous au moins profiter de la vie. Oh, je vais me payer tout ce qui me tombe sous la main. Hein? C'est ça, hein? La philosophie de l'insolence, de la provocation, basée sur les convoitises. Alors, c'est évidemment, c'est très dur, hein, c'est très dur. Tout le chapitre 14 vaut la peine d'être lu. Relisez ces passages-là. Hein. Verset 16. « Et aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées en un faisceau, donc rassemblées. Tu imagines des iniquités à ma charge. » Donc, il suppose que Dieu est inique et qu'il en rajoute. La montagne s'écroule et périt, le rocher disparaît de sa place, la pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. Mais tu détruis l'espérance de l'homme. Alors, c'est encore pire que tous les ravages dans l'univers, tu détruis l'homme. Nietzsche. Vous avez déjà lu du Nietzsche, fils de pasteur, révolté. Tous ses écrits ont été revus et corrigés par Elisabeth, sa sœur, qui était partie en Argentine avec un Allemand, fonder une colonie en Argentine ou au Brésil, une colonie allemande, écologique, hostile aux juifs, antisémite, fasciste, contre Dieu. Mais ben là, ben, s'ils ont des textes pareils, ils pouvaient... Eh bien, Nietzsche, C'était Frédéric, je crois. Et puis Elisabeth, surtout, qui corrigeait tout. Et quand son mari est mort en Argentine, je ne sais plus si c'est le sud du Brésil, elle est retournée là-bas encore pour aider son frère à semer du poison en Europe. Hein ? Fille de pasteur. C'est pour ça qu'il y a des serpents qui peuvent naître dans un bon nid, hein, même dans les familles chrétiennes, hein. La foi n'est pas donnée par la famille, par le sang, par la volonté de l'homme. On le voit bien. Regardez bien. Staline. Staline a fait toute l'école pour être pasteur. Pop. Puis dans la bibliothèque, il a trouvé des livres où comment on pouvait manipuler les foules, les âmes, les consciences. Il les a lus. Vous croyez que c'était par hasard qu'il n'y en avait pas là ? Qu'il y en avait là ? Moi j'ai été au séminaire catholique, il y avait 44 000 volumes. Dans la bibliothèque à côté des jésuites, 72 000. Si vous saviez les bouquins que j'ai vus, si ça vient de Jésus-Christ, ma parole. Les plus grands médiums, les plus grands sorciers du Moyen-Âge, et les bouquins, ça vient des moines et des prêtres. Bon. Alors, regardons, on est dans 14, Job 14, et verset 20, « Tu es sans cesse à l'assaillir, il s'en va, tu le défigures, puis tu le renvoies. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps, c'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. » Voilà comment on en arrive. En psychiatrie, hein, moi j'y vais régulièrement, je ne peux pas parler de Jésus. Hein. Je dois dire que je viens en tant qu'ami. En tant que pasteur, ça y est, pof. Alors, je suis repéré. Et alors, pratiquement en Belgique, ça va encore. Mais en France. Alors, il faut que la personne reste dans son péché et toutes les conséquences du péché. C'est un client plus, hein, si on le garde. Ça fait vivre l'industrie pharmaceutique et. C'est grave, hein. C'est grave. Quand on veut servir le Seigneur, quand on se heurte à des systèmes pareils, il y a assez de personnes dans la rue qui sont malades aussi, qui ne sont pas encore enfermées, ou on attend qu'elles sortent, et puis on les fréquente, on va les visiter, c'est tout. Il faut être patient. Alors, au chapitre 16, verset 3. Quand finiront ces discours en l'air ? Pourquoi cette irritation dans tes réponses ? Moi aussi, je pourrais parler comme vous, si vous étiez à ma place. Je vous accablerais de paroles, je secourrais sur vous la tête, je vous fortifierais de la bouche, je remuerais les lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne seront pas calmées. Si je m'étais, en quoi seront-elles moindres ? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison, tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève, m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince les dents contre moi. Il m'attaque et me perce son regard. Vous imaginez jusqu'à quel point un homme désespéré peut en arriver à considérer Dieu. Verset 22. Le nombre de mes années touche à son terme et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Désespoir total. La philosophie du néant, le nihilisme. Hein ? La franc-maçonnerie aime bien ça, hein ? Et passe via le Parti Socialiste pour semer ce poison-là dans tous les programmes d'enseignement. Et le pire, c'est que les écologistes se mettent toujours en alliance avec les socialistes pour renforcer cette doctrine. Chapitre 17, verset 13. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père. Et au ver, vous êtes ma sœur, ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle ? Mon espérance, qui peut la voir ? Elle descendra vers les portes du séjour des morts quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Ma mère, qui a été à la messe pendant 50 ans, quand on lui parle du Seigneur, et quand on lui parle de la foi chrétienne, parce qu'on continue à prier, et parfois je l'embarque à des études bibliques, elle aime bien se distraire, de voir les gens, elle voit du paysage, Toutes les semaines. Eh bien, pratiquement, elle n'ouvre pas la Bible, n'en prend pas une. Elle est là, elle écoute. Et quand on lui pose la question, qui vient un petit-fils ou quoi, je vois qu'il y a des amis là-bas, ils savent ce que c'est l'évangélisation, surtout avec ses proches, c'est encore plus dur. Alors, pratiquement, ce qui se passe, quand il y a les petits-enfants et tout, mamie, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ben, c'est le trou, hein. C'est un trou. Il n'y a jamais personne qui est revenu, qui a dit qu'il y avait autre chose derrière. Et quand je réponds, il y a Jésus-Christ et l'Évangile. Elle ne répond pas, elle le refuse. C'est fou, quoi. Voilà, vous avez ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui. 21 siècle avant Jésus. C'est permanent dans l'humanité qu'il y a des gens qui refusent, comme les ânes, les quatre matins, ils bloquent. Alors, on va aller dans Job, et vous allez voir que dans Job, tout d'un coup, les nuages sont partis sur la montagne là-bas. Vous pourrez aller au téléphérique après-midi, vous comprenez? Si les nuages sont partis, oui, ça explose, la lumière. Eh bien, dans le livre de Job, tout d'un coup, on arrive au sommet. On arrive à des belles choses. Job, chapitre 19. C'est ça qui est très intéressant. C'est tous les tourments et aussi les bénédictions dans Job. Hein. C'est une belle photographie des états humains, des états spirituels. Job, chapitre 19, verset 23. « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer, avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Ça, c'est pas la foi, ça. Ah, c'est un cri formidable. Le Rédempteur, l'immortalité de l'âme, la permanence de l'âme, même si le corps meurt, l'union éternelle à Dieu, la foi. On a déjà l'embryon de la foi là. Hein? C'est pas mal. C'est consolant, ça veut dire que Dieu a parlé au cœur depuis longtemps. Si le péché parle depuis longtemps dans le cœur, Dieu fait grâce. Il fait signe, des signes, et il arrive à toucher les cœurs. Donc on ne doit pas avoir peur. Ça nous encourage quand on rencontre, je m'excuse, des abrutis qui s'entêtent. Il faut être patient, doux, et en se disant, dans le livre de Job, il y avait ça. Et autre part. Et tous ceux qui ont aimé le Seigneur ont toujours été patients pour gagner des âmes. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est prier. Parce que vous voyez bien que ça viendra de Dieu, pas de vous, hein. Ah ben oui, hein, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a un diplôme de réussite perpétuelle, hein. Oh là là. Ou alors là, c'est tout, on ne va plus au culte, on ne va plus aux instructions bibliques, on reste tous chez soi, on est tous des parfaits saints, on a tout, toutes les médailles, tous les mérites. Non, c'est pas possible. L'Église, c'est les pécheurs réunis, sauvés par grâce, une grâce agissante tous les jours, hein. C'est pas une fois qu'on se convertit, c'est tous les jours la grâce agissante. Par la volonté de Christ, nous sommes sanctifiés tous les jours, pas par nous-mêmes. Et forcément, si la volonté de Christ n'est pas sur nous, patatras, on retombe dans cette sauce-là. Alors, Job chapitre 23, verset 3. Oh, si je savais où le trouver. Mais prenons déjà verset 1. Job prit la parole et dit: maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Quand j'étais jeune, à 18 ans, j'avais lu 2 livres par semaine. J'étais fanat, je voulais connaître la vie, tout. Karl Marx, Hegel, tout le bazar, les romans français, allemands, tout. Bon, et qu'est-ce qui se passe, anglais? Et pratiquement, à un moment donné, j'étais quand même empoisonné par Camus, Sartre et tout ça. Et j'étais sur le point de me suicider. Mais froidement, hein, tac! Ça ne sert à rien, cette vaste comédie-là. Ou alors je file l'abruti, je cours toutes les femmes, je fais tout, et puis 5, 8, 10 ans après, je me liquide. Je savais. Mais finalement, je cherchais vraiment quelque chose de plus grand. Et regardez ce qui est mis. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Si je savais, mais il n'y arrive pas. On n'arrive pas à Dieu. Il faut que Dieu vienne nous chercher. Ben, heureusement, hein. Parce que je me serais liquidé, certainement. Le suicide métaphysique, je l'aurais fait. Philosophique. Mais, il y a eu des choses sur le chemin où j'ai vu le Seigneur. Quand Paul dit « J'ai été saisi par Christ », c'est pas lui qui a saisi Christ. Après, il essaye de le saisir, oui. Ça, c'est la vie chrétienne. Alors, vous voyez bien qu'il faut faire attention. Il y a vraiment un soupir, un désir profond du cœur, dans Job, d'aller jusqu'au trône. Hein. Ça veut dire honorer son roi, son prince, son maître. C'est pas simplement « je mets Dieu dans ma poche ». C'est quelque chose de grand qui se passe en lui. Chapitre 33. Moi, je vous demande d'avoir de la passion pour tous les livres de la Bible. Pas toujours pour les mêmes livres. Ça, c'est une foutue manie chez les chrétiens. Pas toujours pour les mêmes versets. La passion pour toute la Bible. Parce que vous serez toujours surpris. Si ce n'est pas la 10e fois, ça sera la 102e fois. Vous serez surpris. Et puis, vous n'êtes plus le même après. C'est une école de patience et de vérité. Et de toute façon, c'est une source de vie, hein, la parole de Dieu. Chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Très réaliste. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ça, par exemple, dans des gens qui n'ont pas la culture chrétienne, qui n'ont pas la Bible, j'ai remarqué ça souvent avec des musulmans, ils viennent me parler, me dire « je rêve plusieurs fois de ça, et, qu'est-ce que ça veut dire, pasteur ?» Moi, je prends le texte de la Bible, j'arrive à leur donner un éclaircissement, mais ne jouons pas à ça entre chrétiens. Dieu essaye de parler à des gens qui n'ont pas la Bible, ou qu'on leur a dit que la Bible était empoisonnée, falsifiée par les juifs et les chrétiens. Donc, il les attrape autrement, il faut être là. Si vous avez une bonne culture biblique et une bonne relation avec le Seigneur Jésus, vous pouvez les aider à ce moment-là. Autrement, on va sortir des âneries. Hein.
Dieu ne parle pas de vision.
Comment ?
Dieu ne parle pas de vision.
Oui, mais je ne suis pas pentecôtiste pour deux sous. Mais je sais que Dieu parle à qui il veut, quand il veut. Hein ? Et il y a des gens, ils n'auront jamais une Bible. Moi, dans ma famille, il n'y avait pas de Bible. La première fois que j'en ai eu, c'était la bagarre. Moi. Et puis après, elle était disparue. Je ne pouvais plus me monter dans ma chambre. Plus rien du tout. Plus voir tel et tel copain, etc. Ben, vous parlez, c'est de la rigolade. Si Dieu, malheureusement, ne parle pas dans le cœur, c'est quoi ? C'est la désolation. Alors, verset 16. Il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil. Vous voyez, du péché, donc. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Donc, ce qu'on appelle la perdition, la condamnation éternelle. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, sa vie des messagers de la mort. Messagers de la mort, donc, les ténèbres. Hein ? Les démons. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Vous avez vu ? Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair, la rançon, une, hein, pas, il n'y en a pas 36, une c'est celle de Christ. Hein. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse, résurrection. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Justification. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice. » Donc, Sadoc, Sédex, c'est la sainteté. Hein. « Je n'ai pas été puni comme je le méritais. » Eh bien oui, la miséricorde, la clémence de Dieu. Parce qu'autrement, on va tous en enfer. Hein. Donc la miséricorde, le salut par grâce. « Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. » On sait bien que la lumière, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Fils de Dieu. Voilà tout ce que Dieu fait, deux fois, trois fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Vous vous rendez compte ? C'est une mine d'or, ce texte. C'est une mine d'or. Qui est cet ange intercesseur? Qui est ce messager de l'intercession? Bon, qui apporte la résurrection, qui apporte la paix, le bonheur, la relation, le face-à-face avec Dieu. Job 37, verset 36, verset 22, non, je suis dans Ézéchiel là. Donc Job 37, verset 22. Oui. Mais je vais commencer pour que ça s'enclenche bien, comme on dit. Job 37, verset 21. On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux, lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable! Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. Donc, on voit bien qu'il y a, Dieu est inaccessible, et quelque part, il ne répond pas. La communication n'est pas établie. Donc, il y a une attente que la communication soit établie. Si cette communication est rétablie, on sait très bien que c'est où? Quand Jésus est mort à la croix. Le voile du temple s'ouvre. Nous avons accès par l'Esprit à Dieu, notre Père. Donc là, on voit vraiment l'attente. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Ils ne portent leur regard sur aucun sage. Ça, les mérites. Il n'y en a pas un meilleur que pour les autres, pour Dieu. Bon, donc il faut un miracle. Il faut une rédemption. C'est clair, le livre de Job nous le dit bien, il faut une rédemption. On voit les souffrances, on voit les tortures, mais on voit aussi l'apaisement. Il y a des signes d'espérance, de force qui sont donnés à cet homme. C'est important que nous sachions qu'il peut y avoir chez tout homme ces deux choses-là. Ça va ? Même si quelqu'un n'a pas été instruit dans la parole de Dieu, dans le christianisme, il peut y avoir, quand on rencontre quelqu'un, ce que j'appelle une action résiduelle de Dieu. C'est-à-dire, à un moment donné, dans ses souffrances, dans ses songes, il a reçu des messages. Et quand vous le rencontrez, une fois, deux fois, trois fois, vous percevez qu'il y a eu quelque chose de déposé en lui. L'action résiduelle de Dieu. Vous devez voir là si la personne est attirée vers Christ par Dieu. Nul ne vient à moi si ce n'est mon Père qui l'attire. Donc, Dieu fait quelque chose. Donc, quand on évangélise, il faut discerner l'œuvre de Dieu chez la personne. C'est très étonnant d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre. Et c'est pour ça, plus on médite, plus on prie, plus on est attentif, on reconnaît ça. Mais on apprécie la gloire de Dieu déjà. On reconnaît que même chez des gens qui ne sont pas chrétiens, il y a une action résiduelle de Dieu. Il y a des choses qui ont été marquées dans leur cœur, dans leur expérience ou dans leurs songes. Il faut faire très attention de ne pas arriver comme l'éléphant dans la porcelaine qui sait tout et l'autre ne sait rien. Comme l'abruti qui va dire, toi t'es un sale païen, moi je sais tout, je suis à sauver. Il faut faire gaffe. Doux et humble de cœur, le Seigneur l'a dit. Doux et humble de cœur. Il faut être honnête, on n'est pas plus malin que les autres. Si Dieu ne nous avait pas éclairés et sauvés, on n'est rien du tout. Donc, modestie. Modestie, mais une grande foi. Une grande foi que Dieu peut agir ou a déjà agi et qu'il va encore agir. Alors, le décret divin de la sanctification est bien sûr inscrit au niveau du ciel. Il est inscrit dans le ciel. C'est un décret qui est dans le ciel. Dieu l'a décidé. Personne n'y raconte. Donc, faites attention. Genèse chapitre 1. Chapitre 1, verset 2. La deuxième partie du verset 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc la roue hein, la Ruach en hébreu, pneuma, l'esprit, hein, grec, français, l'Esprit Saint, se mouvait au-dessus des eaux. Bon, le verbe se mouvait au-dessus des eaux, c'est quand vous allez dans la campagne et vous regardez les rapaces, vous avez la buse, elle fait des ronds. Le Milan Royal, il a la queue double, il fait des lacets. Puis il y en a un autre qui est plus petit, mais extrêmement efficace, et terrible pour les mulots, pour tout le reste, les lapins, c'est le faucon Saint-Esprit. Alors, il vole, il reste sur place comme ça, il regarde, puis paf! J'ai déjà vu attraper des corbeaux. Et vous entendez le corbeau qui hurle, il sait très bien qu'il est fichu. Hein? Alors, il arrive à une vitesse, donc le verbe voltiger, rester sur place de cet animal, c'est l'expression d'un pouvoir, d'une royauté sur le créé. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il y a une royauté. Rien n'échappera à la royauté du Saint-Esprit. Maintenant, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est pas bara, ça ne veut pas dire que c'est une lumière créée. La lumière créée, c'est au verset 14, les luminaires dans l'étendue du ciel. Et au verset 21, aussi. Alors, quand on regarde dans 2e aux Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 8, on voit que la lumière qui a brillé sur la face de Christ nous a fait connaître la gloire du Père. Elle a été déposée en nous comme dans un vase. Vase de terre, pas de cristal. On n'est pas encore du cristal, malheureusement. On n'est pas encore assez transparent. Mais ce qui se passe, c'est que toute la création est destinée à être la propriété du Saint-Esprit et de la lumière de Christ. Tout est destiné. Donc rien n'y échappera. Nous sommes au niveau de Dieu, d'une décision souveraine. Ce n'est pas une décision qu'on prend à l'Assemblée nationale française qu'on va bafouer ou changer dans toutes les sortes. Ou au Parlement belge, hein. Faire des décrets contraires en douce après. Non. Pratiquement, c'est une décision dans le ciel. C'est d'une autorité inimaginable qui a tout créé. Et donc, le décret de sauver est là. Et c'est extrêmement important. Le plan de Dieu de régner sur toute la création, sur tous les hommes, sur tous les cœurs, toutes les âmes, se fera. Donc, il faut avoir une certitude dans la foi que nous n'avons pas un petit Dieu et que le plan de Dieu, Jésus n'est pas venu sur la terre, le Christ n'est pas venu sur la terre parce que les hommes ont péché. Oui, il est venu pour sauver les pécheurs. Mais le Christ avait déjà la vocation de diriger et de faire ressembler tous les hommes à lui, de les mouler, de les former. Le Saint-Esprit avait déjà la vocation de régner et de contrôler les hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que si la venue de Jésus et du Saint-Esprit sur terre sont dépendantes du péché, il a fallu que l'homme qui pêche pour que Jésus vienne. Ça veut dire que Dieu est dirigé par les hommes. Ça veut dire que tout ce que fait Jésus et le Saint-Esprit, c'est en fait à cause des hommes. C'est les hommes qui mènent Dieu par le bout du nez. Mais non, pas du tout. Dieu a un plan et il le réalise. Les hommes font des zigzags, se révoltent, il n'y a pas de problème. Mon Fils débarquera. Mon Saint-Esprit régnera. C'est déjà décrété avant qu'ils aient péché. En quoi ça exprime quelque chose? C'est que la volonté et l'intelligence de Dieu dépassent. Le péché, c'est un grain de sable à côté de la montagne. Dieu n'est pas subordonné aux bêtises et aux péchés des hommes. Et son plan de rédemption, ce n'est qu'un accomplissement, une partie, pour récupérer les hommes qui sont plantés dans la folie. Mais c'est pour garder la ligne, la direction qu'il avait déjà choisie avant. Dieu est immuable, c'est-à-dire il ne change pas. Tout est immuable en Dieu. C'est extrêmement important de comprendre ça, que Dieu avait déjà l'intelligence et la souveraineté et que la puissance trinitaire, divine, était destinée à régner sur le créé, péché ou pas péché. Satan ou pas Satan. Pour Dieu, Satan, pas si grand que ça, vous savez. On sait déjà Dieu a déjà dit dans Ézéchiel 28 où il était tombé. Hein. Vous lisez dans Ézéchiel 28, vous trouverez. Donc, ce que je veux dire, c'est que la rédemption est une œuvre d'autorité qui est venue dans l'accomplissement d'un plan de sainteté. Un plan de sainteté pour tout l'univers qui ne peut pas permettre qu'on y déroge. Donc, le plan de rédemption, c'est un décret, le deuxième décret, il est pour, il garantit la réalisation du premier décret qui est le plan de sainteté sur tout l'univers. Ça va? C'est extrêmement important, les amis. Très, très important. Donc, Dieu a réaffirmé qu'il sauverait. Alors, nous allons dans Genèse 3. Puisque l'homme a péché, puisque l'homme a peur de Dieu, puisque l'homme se sauve, là, tu le vois apparaître. Puisque l'homme, déjà, entre et la femme, se margaille, se dispute, puisque les deux fils se battent, il y en a un qui est tué, puisqu'il y aura la polygamie, puisqu'il y aura les guerres, puisqu'il y aura tout le reste, hein, on connaît. Bon, tout ça, c'est dans la Genèse, au début. Eh bien, Dieu, lui, a tout compris. La rédemption est décrétée. Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, le Christ, devenu après Jésus-Christ, s'incarne dans la personne de Jésus de Nazareth, eh bien, est annoncé. Genèse 3, 21, l'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Voilà la peau de l'agneau. Voilà la préfiguration de l'agneau de Dieu dont Jean-Baptiste parle. Bon, on va y revenir après. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au chapitre 4, il y a deux frangins. Il y en a un qui va dire, non, moi, je vais plaire à Dieu parce que je lui fais des cadeaux. Des mérites, hein? La personnalité humaine qui s'avance vers Dieu avec des mérites, peut-être des efforts, toutes sortes de choses. La religion. La religion, quelle que soit la religion. Zéro pour Dieu. Il ne l'approuve pas. Mais de l'autre côté, Abel, lui, il sait ce que Dieu a fait sur son père, son papa et sa maman. Il a déposé la promesse éternelle du salut pour les hommes, de la rédemption, par l'agneau de Dieu. Et Abel, il fait le sacrifice, comme il l'a vu faire par Dieu, pour ses parents et pour lui. Donc là, on a le conflit. Conflit entre la grâce et la religion. Le salut à bas prix, c'est la religion. Le salut d'un grand prix, c'est la mort de Christ, qui est annoncé. Ok ? Pour vous dire que cette peau, des habits de peau, c'est Jésus, allons voir Romains, chapitre 5, verset 14. Les amis, c'est passionnant la Bible, passionnant. Mais qu'est-ce qu'il faut pédaler des années, hein? Ah, il faut y passer des heures, hein? Et puis, Seigneur, au secours, je ne comprends rien. 30 ans, 40 ans après. Ah, merci Seigneur, je comprends. Pas deux heures après, là. 30, 40 ans parfois. Purée. Mais ça nous apprend à être... Hein, petit? Mais Dieu est tellement riche, il nous aime tellement qu'il donne. Hein. Il donne hein, quand il voit qu'on a vraiment faim. Chapitre 5, verset 14. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, donc au moment où il y a la loi, personne n'avait conscience du péché. Quand il y a la loi est donnée, pan, on a la glace devant nous, oulala, ouh, le sale péché. Ben on est foutu, on n'arrivera jamais à accomplir tout ça. Donc on voit sa propre condamnation avec la loi et la propre séparation avec Dieu. Impasse totale. Donc la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, mais si on prend conscience qu'on va vers la mort éternelle, on va crier à Dieu pour être sauvé par grâce. On va retourner à l'agneau. On va abandonner la voie de Caïn pour retourner à la voie d'Abel. Alors, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, tous ceux qui ont suivi Adam et Ève n'ont pas une faute aussi importante, mais ils sont tout de même dans la mort, dû au péché. Alors, virgule, Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, ici, quand vous allez chez le facteur à la poste, que vous avez un papier à transmettre, qu'il faut que ça arrive à telle date, et qu'on ait la date de départ, vous allez là et vous le dites. Alors, vous lui donnez la lettre avec le timbre, pan sur le tampon, pan sur le timbre, pan à côté, pour qu'on ait bien la date lisible, hein, quand c'est quelque chose de très important. Autrement, c'est pas très important, pan sur le timbre, puis c'est réglé. Mais quand vous avez cette image qui est mise, République française et tout le reste, sur le timbre, et parfois à côté, c'est la même chose là. Ici, dans la main, sur le tampon. Et l'image qui est là, ça s'appelle en grec tupone. C'est l'image de ce qui est sur le tampon. Et cette image-là, tupone, c'est le mot qui est ici en romain. Dieu a mis, en posant la peau de l'agneau sur Adam et Ève, il a mis son tampon.